Décryptage. Anne Corpet.
Les États-Unis portent-ils toujours bien leur nom ? On les savait divisés, mais la fracture creusée sous le mandat de Donald Trump est soudain devenue béante. Environ la moitié des États américains sont sur le point d'interdire ou de restreindre le droit à l'avortement, tandis que l'autre moitié s'organise pour accueillir les femmes qui n'auront plus accès chez elles à l'interruption volontaire de grossesse. En abolissant l'arrêt Roe contre Wade vendredi dernier, la Cour suprême a supprimé toute protection de l'avortement au niveau fédéral et laisse aux États le soin de légiférer sur cette question. Cette décision illustre la politisation d'une instance judiciaire censée se placer au-dessus des partis. Elle montre aussi l'efficacité de la stratégie élaborée il y a plusieurs décennies par les ultras du camp conservateur face à un camp démocrate trop naïf ou impuissant. Décryptage se penche aujourd'hui sur la décision historique de la Cour suprême qui va transformer la vie des Américaines. Et avec nous en studio pour commenter cette régression américaine, Esther Sina, bonsoir. Vous êtes maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin, historienne des États-Unis. Et Corentin Célin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur agrégé de classe préparatoire au lycée Carnot de Dijon et chroniqueur sur les États-Unis pour lesjours.fr. Merci à tous deux d'être venus jusqu'à nous.
Fight back!
Ready to fight back!
Prêt à riposter, son corps, son choix. Ce sont quelques-uns des slogans entendus devant la Cour suprême vendredi, peu après qu'elle a rendu sa décision. Et dans la foule, notre correspondant Guillaume Nodin a interrogé Debbie Johnson. À 63 ans, cette femme est venue de l'Oklahoma, un État qui veut interdire l'avortement pour crier sa colère. On l'écoute.
C'est un sentiment tellement terrible de penser que cette liberté que j'ai eue pendant des années et des années d'avoir accès à des soins de santé dont j'avais besoin n'existera plus. Et j'ai une fille de 27 ans. Je suis ici pour elle et pour ses amis.
Alors Debbie Johnson parle de santé et c'est vrai, Esther Sina, que cette décision de la Cour suprême, il faut le rappeler, hein, va avoir des effets directs sur la santé des femmes et en particulier sur les plus pauvres.
Oui, et des effets dévastateurs. Il faut quand même rappeler qu'une femme a 14 fois plus de risques de mourir d'une grossesse que d'un avortement. Et effectivement, les femmes les plus pauvres vont être particulièrement affectées puisqu'elles ne pourront pas se rendre dans des états voisins, voire des états lointains pour avoir accès à ces soins, ne pourront pas prendre des jours de congé de leur travail. Donc c'est bien sûr elles qui seront les plus affectées.
Alors, l'Ohio vient d'interdire l'IVG même en cas de malformation fœtale. Donc ça veut dire que les femmes vont être obligées de mener jusqu'à terme une grossesse vouée à l'échec. Dans d'autres États, des nouvelles lois ont été mises en place dans les heures qui ont suivi l'annonce de la Cour suprême. Corentin Célin, les États républicains étaient prêts.
Oui, ils étaient prêts puisque, en fait, ils espéraient cette décision de la Cour suprême. Ils laissent compter depuis des décennies. Et c'est pour cela que, depuis quelques années, ils avaient voté ce qu'on appelait des lois cliquées, des trigger laws, c'est-à-dire, en fait, des lois qui entrent en vigueur aussitôt la jurisprudence Roe Casey sur l'avortement revirée par la Cour suprême, et c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a un délai de 30 jours, cependant, donc il y a encore quelques États qui n'ont pas appliqué la loi, mais vont le faire. On est déjà à 9 États qui ont interdit l'avortement, dans les conditions que vous rappeliez. On devrait être à 13 d'ici une quinzaine de jours. Et ensuite, il y a une dizaine d'États pour lesquels on a des doutes sur ce qui va se passer. Ce n'est pas évident parce qu'on peut y avoir, par exemple, un gouverneur démocrate et une législature républicaine. Donc, on a une dizaine d'États un petit peu plus qui sont, on va dire, en balance pour savoir s'ils ne vont pas, à leur tour, adopter une loi d'interdiction sur l'avortement.
Et à l'inverse, par exemple, dès vendredi, les gouverneurs de l'État de Washington, de l'Oregon et de Californie se sont mis ensemble pour dire « Nous, on est prêts à être État sanctuaire ». Les démocrates ont aussi été rapides, Esther Sina.
Exactement. Et on a eu des déclarations donc, de gouverneurs disons, pouvoir accueillir des femmes ayant besoin de ces soins pour l'avortement. Donc, par exemple, en Californie, avec des messages peut-être d'espoir, mais quand même effondrés de la situation, pour rappeler que ces États pourraient protéger ces femmes-là. Et, par exemple, dans les États qui sont en balance, on a la Caroline du Nord, où le gouverneur a rappelé qu'en Caroline du Nord, le droit à l'avortement serait protégé, mais on ne sait pas si à l'avenir, aux mains d'un gouverneur républicain, cela pourrait changer.
Donc, Corentin, c'est là, on est bien dans une fracture totale là, des États-Unis sur cette question, en tout cas.
Oui, et une fracture juridique qui est, pour certains experts, peut-être la plus grave depuis la guerre de sécession, pour une bonne et simple raison, c'est que les États vont se retrouver en rivalité et même en conflit juridique, puisque que va-t-il se passer ? Par exemple, le gouverneur de Californie, Newsom, dès vendredi soir, a signé une loi protège les médecins californiens qui pratiquent créer des avortements sur des femmes venues d'autres États contre les plaintes venues de ces États. Donc on voit qu'on se prépare à une guerre juridique entre États dont on peut deviner la fin. On est vraiment dans une mise sous tension d'une union fédérale où les États doivent coopérer. Là, ils sont mis en concurrence par rapport au droit à l'avortement. Et on ne peut pas savoir aujourd'hui où ça peut finir. Ça peut très mal finir.
Les femmes, par exemple, qui ont recours à l'avortement, qui sont issues d'États où l'avortement est interdit, elles peuvent être envoyées en prison, Esther Sina ? Je veux dire, elles risquent quelque chose ?
Il peut y avoir des États, effectivement, où l'avortement sera criminalisé et donc les femmes peuvent être poursuivies pour un avortement. Et il faut savoir qu'il y aura beaucoup de cas où, en plus, une fausse couche et un avortement ne peuvent pas vraiment être différenciés. Donc, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre de l'histoire des femmes. Et pour rebondir, effectivement, on entre vraiment dans l'inconnu. On ne sait pas si ces femmes pourront être poursuivies si elles se rendent dans un autre État. Alors là, la Californie essaye de protéger les femmes et nous assure que non. Mais il y a effectivement un flou juridique. L'État fédéral a déclaré que normalement non, que l'accès en plus à des soins via l'État fédéral devrait être protégé. Donc par exemple en recevant par la poste des pilules pouvant mener à un avortement. Mais certains États qui criminalisent l'usage de ces pilules rendent la question extrêmement complexe.
Alors justement pour revenir au fondement juridique de la décision, le juge Samuel Alito a écrit « L'autorité de réguler l'avortement est rendue au peuple et à ses représentants élu, la légalité de l'avortement doit être résolue comme la question la plus importante dans nos démocraties. Alors, il invoque la démocratie, mais il ignore le fait, Corentin Célin, que la majorité des Américains soutient l'avortement.
Oui, c'est le double paradoxe qui marque cette décision, c'est qu'elle se revendique effectivement d'un retour à la démocratie. Hein. C'est un vieil argument conservateur de dire que ce n'était pas normal que ce soit une décision de justice, de juge non élu qui ait décidé de constitutionnaliser le droit à l'avortement dans Roe en 1973. Donc ça, c'est vraiment ce que défendent les conservateurs, mais il y a un double paradoxe. Premier paradoxe, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, sinon depuis jamais, la Cour suprême retire un droit qu'elle avait donné à une catégorie de la population, en l'occurrence les femmes, depuis très longtemps. Là, c'est pas, elle n'a pas élargi un droit comme celui, par exemple, des armes à feu avec Hiller en 2008. Non, elle retire un droit qu'elle avait accordé elle-même. Donc ça, c'est déjà très paradoxal. Et elle le fait, deuxième paradoxe, alors même que la majorité constante des Américains et des Américaines sont favorables au droit à l'avortement et étaient favorables au maintien de cette jurisprudence Roe. Donc, on voit bien que alors même que les juges conservateurs et Alito prétendent faire uniquement du droit, on voit bien qu'eux aussi font de la politique.
Sans compter qu'ils disent s'en remettre aux États qui, selon eux, incarnent la démocratie. Mais enfin, avec le système de redécoupage électoral opéré depuis 20 ans par les Républicains, est-ce qu'on peut dire que les parlements des États, Esther Sina, sont vraiment démocratiques ?
Pas du tout. Effectivement, avec ce qu'on appelle le gerrymandering, donc le découpage arbitraire des juridictions,
des circonscriptions,
c'est ça, pour élire donc les représentants. Ces redécoupages favorisent en général les républicains et donc on a affaire à des élections où des candidats républicains sont élus avec moins de voix que leur concurrent ou leur concurrente démocrate. Donc c'est particulièrement hypocrite. C'est également hypocrite, à mon sens, de parler de rendre au peuple cette décision. Donc bien sûr, puisque les élus ne sont pas forcément représentatifs, mais la Cour suprême est elle-même censée représenter le peuple également. Donc créer cette dichotomie, quelque part, c'est une forme d'hypocrisie. Et puis, en effet, les sondages montrent que les Américaines et les Américains, à une estimation d'au moins 57%, sont favorables au droit à l'avortement et étaient favorables au maintien du précédent.
Alors, cette décision de la Cour suprême est vraiment l'aboutissement d'un combat mené par la droite chrétienne conservatrice aux États-Unis depuis des années. Et je voudrais vous faire écouter la réaction de Marc et Gracie, des évangéliques rencontrés à l'office de l'église de la Bible des Woodlands au Texas. C'est Thomas Arms qui les a interrogés ce week-end, après donc la décision de la Cour suprême sur l'avortement.
Je suis tellement satisfait de cette décision et je prie pour que Dieu rende raison aux gens, pour qu'ils ne voient pas ça comme une attaque contre un style de vie.
Je suis d'accord. C'est comme si Dieu était apparu pour nous montrer le chemin.
Corentin Célin, comment cette droite ultra-religieuse a pu investir à ce point tous les échelons du pouvoir, et en particulier le pouvoir judiciaire aux États-Unis, pays de la liberté?
Alors, je crois qu'en fait, en simplifiant, il y a eu deux temps. D'abord, cette droite religieuse chrétienne, elle s'est emparée du Parti républicain. On peut retenir plusieurs dates, mais moi, je retiens par exemple en 1996, quand Bob Dole, le candidat présidentiel républicain, conservateur, mais moins porté sur ces choses religieuses, a été contraint publier dans le programme du Parti républicain l'interdiction de l'avortement sans exception pour la première fois, et il avait été contraint de le faire alors qu'il ne voulait pas le faire. Et là, on voit qu'à partir de cette date, on a vraiment une droite chrétienne religieuse, essentiellement évangélique, qui domine le Parti républicain. Et ensuite, il y a eu le choix résolu du Parti républicain et de cette droite chrétienne qui avait pris le contrôle, de jouer le jeu des tribunaux, des cours, de repeupler les tribunaux avec des juges formés dès l'université par une organisation très importante qui s'appelle la Federalist Society, qui a formé, sélectionné des juges, j'allais dire, au berceau, dans une interprétation littérale et originaliste de la Constitution. Et la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, les 6 juges conservateurs sont ou ont été membres de cette Federalist Society. Et donc, on voit bien que c'est un choix de longue haleine, d'une vingtaine, trentaine d'années, qui aujourd'hui est validé par la décision de la Cour suprême.
Alors, pour revenir à cette lecture littérale de la Constitution qui a inspiré cette décision, finalement, Esther Séné, est-ce que ça veut dire finalement que tous les droits qui n'ont pas une histoire qui remonte au 19e siècle, peuvent être menacés ?
Alors effectivement, c'est la question. Là, le droit à l'avortement, c'est ce qu'on appelle un droit énuméré. C'est-à-dire que lors de la décision de 1973, Roe vs. Wade, la Cour suprême déclare que le droit à l'avortement est compris, donc implicitement compris, dans le droit à la vie privée et à l'égalité du 14e amendement. Et donc là, la majorité de la Cour suprême revient sur cette décision en disant que non, ce droit n'est pas en plus explicitement mentionné dans la Constitution. C'est ce que dit Alito, le mot n'est pas présent. Et il n'est pas, selon lui, ancré dans une tradition suffisamment longue. Mais effectivement, alors, d'après ce raisonnement...
Le mariage gay non plus.
Exactement. Et c'est ce que dit d'ailleurs... le juge Clarence Thomas, dans son opinion concurrente, donc c'est-à-dire qu'il est d'accord avec la majorité, mais il souhaitait rajouter quelques mots. Et pour lui, maintenant, se pose la question du mariage homosexuel, de l'accès à la contraception et de l'homosexualité.
Mais Corentin Célon, c'est là, est-ce qu'il y a une limite claire à ce que les États pourront interdire? Ou est-ce que, je ne sais pas, demain, le Texas peut dire « moi, j'interdis la contraception »
Alors, pour l'instant, ce n'est pas possible, puisqu'il y a toujours une jurisprudence de la Cour suprême. Mais si demain, Clarence Thomas parvient à son projet, qui est désormais, comme l'a rappelé Esther Séné, clairement formulé, hein, c'est-à-dire de remettre en cause, au nom de la nouvelle interprétation, en particulier du 14e amendement, tous les droits implicites non énumérés, eh bien demain, on peut avoir un revirement de jurisprudence sur la contraception ou sur le mariage homosexuel, et ensuite qui rendrait aux États, effectivement, le droit d'interdire et l'un et l'autre. C'est tout à fait envisageable.
Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose sur la contraception. Alors, ça dépend de notre définition de la contraception, puisque justement le Texas prépare une loi qui considérait qu'un avortement a lieu après la fécondation. Donc ce que nous, on considère comme de la contraception, c'est-à-dire par exemple la pilule du lendemain ou un stérilet, serait interdit au Texas puisque c'est une contraception qui agit après la fécondation, au moment de la nidation. Et donc là, avec cette décision, ces moyens de contraception pourront être criminalisés.
Alors, le prochain grand rendez-vous électoral américain, ce sont les élections de mi-mandat. Vendredi, Joe Biden y a fait référence quand il s'est exprimé pour commenter la décision de la Cour suprême. On écoute le président américain.
I know so many women are now going to face incredibly difficult situations.
Je sais que maintenant, beaucoup de femmes vont devoir faire face à des situations incroyablement difficiles. Je vous entends, je vous soutiens. Je suis avec vous. Avec cette décision, la majorité conservatrice de la Cour suprême montre à quel point elle est radicale, à quel point elle est éloignée de la majorité de ce pays. Ils ont fait des États-Unis une exception intolérable parmi les pays développés. Mais cette décision ne signifie pas la fin de l'histoire. Mon administration va utiliser tous les pouvoirs légaux à sa disposition. Le Congrès doit agir et avec votre vote, vous pouvez agir. Vous pouvez avoir le dernier mot. Ce n'est pas terminé.
You can act. You can have the final word. This is not over.
Corentin Célin, est-ce que les démocrates ont la moindre chance de remporter les élections de mi-mandat avec une majorité suffisante au Sénat, c'est-à-dire 60 voix, pour inscrire le droit à l'avortement dans la loi fédérale ?
Alors, il faudra d'abord rappeler qu'historiquement, les élections de mi-mandat d'un premier mandat de président sont généralement catastrophiques pour le parti de ce président, en particulier pour tous les derniers présidents démocrates. Deuxièmement, ça se présentait déjà très mal pour Joe Biden et les démocrates. Joe Biden est extrêmement impopulaire en ce moment. Il y a le problème de l'inflation qui pèse énormément sur l'appréciation que portent sur lui les Américains. Donc, ça se présente extrêmement mal. Évidemment, on comprend bien, on voit bien qu'il y a une émotion très forte parmi les progressistes, parmi les électeurs démocrates, qui devrait les amener à se mobiliser aux urnes en novembre. Mais qui peut dire, il y aura déjà quelques mois qui auront passé, qui vont se mobiliser là-dessus et pas sur, on le voit bien, la hausse des prix, le prix de l'essence, l'inflation. Et deuxièmement, il y a un problème qui peut peser pour les démocrates, c'est que l'électorat qui est le plus favorable à l'avortement et aux grands droits sociaux en général, c'est l'électorat des 18-29 ans, des jeunes, qui est l'électorat démocrate par excellence, sauf que cet électorat-là, c'est celui qui s'abstient le plus lors des élections de mi-mandat. Et donc, quand même, si on réunit tout ça, il y a quand même très peu de chances, hein, on ne va pas dire jamais, mais il y a très très peu de chances que les démocrates puissent obtenir une majorité suffisante au Sénat pour faire une loi sur l'avortement à l'échelon fédéral.
D'autant, Esther Sina, que cette question de l'avortement peut aussi galvaniser le camp républicain, finalement. Ils peuvent se dire, ah ben ça y est, on a gagné là-dessus, allons-y, gagnons une majorité pour inscrire l'interdiction de l'avortement dans la loi fédérale.
Oui, tout à fait. Ce qu'ils considèrent comme une victoire peut les galvaniser et voir qu'ils peuvent acquérir encore plus de pouvoir. Et je suis tout à fait d'accord avec Corentin Célin. De plus, les élections de mi-mandat sont en général défavorables au président, au camp du président. Et en plus, la stratégie des démocrates d'appeler au vote de façon finalement assez vague semble être une stratégie de moins en moins efficace. Et c'est ce que dénonce Alexandria Ocasio-Cortez, donc une progressiste démocrate, qui appelle à changer de stratégie, à être beaucoup plus concret. De combien de voix avons-nous besoin au Congrès pour qu'il y ait ce qu'on appelle une super majorité, et d'essayer justement d'accéder à ces électeurs et électrices jeunes qui, pour l'instant, semblent démobilisés.
Alors, dernière question, parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Corentin Célin, est-ce que cette affaire, finalement, n'a pas définitivement enterré le prestige de la Cour suprême, qui une institution censée être apolitique?
Oui, alors ça, c'est incontestable. Aujourd'hui, d'après le sondage Gallup, qui est réalisé depuis plusieurs décennies, c'est 25% d'Américains qui approuvent la Cour suprême. Pour vous donner une idée, il y a encore 10 ans, on était plus proche de 40%, et il y a 20 ans, de 50%. C'est une lente descente presque aux enfers de la Cour suprême, qui était une institution de consensus, de référence, au-dessus, justement, théoriquement, du jeu partisan, et qui semble y rentrer à son tour. Et c'est vraiment ce dont témoigne cette décision Dobbs.
Merci beaucoup, Corentin Célin, professeur agrégé de classe prépa au lycée Carnot de Dijon. Esther Sina, maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Merci à Claude Battista pour la réalisation.